Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, pour la rédaction en brésilien, Lucia Muzel.
Boa noite.
Karina Branco de la rédaction en portugais.
Hola a todos.
Et Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes.
Alors cette nouvelle édition de ADM, Accent du Monde, sera largement consacrée au coronavirus et à ce qui se passe dans le monde pour lutter contre l'épidémie. Alors bien sûr, il y a les gestes barrières et la vaccination, ce qui donne lieu à travers toute la planète à une compétition qui oppose les pays entre eux aux grands laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, comme on dit en anglais. Lucille Gimbert, de la rédaction en espagnol de RFI, vous qui suivez l'actualité en Amérique latine, où en sont les campagnes de vaccination dans cette région?
Alors l'Amérique latine a commencé à vacciner, mais lentement et de façon très inégale. Sur les 86,5 millions de doses qui ont déjà été administrées dans le monde, environ 2,5 millions seulement l'ont été en Amérique latine. Ce sont surtout les pays les plus riches de la région qui ont commencé, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Chili, et puis plus récemment le Costa Rica, le Panama et l'Équateur. Ces pays, ce sont ceux qui ont eu les moyens financiers concrètement de signer des accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques privés, principalement Pfizer, AstraZeneca, Moderna, mais aussi avec des pays fournisseurs comme la Chine et la Russie. Et là, la géopolitique joue à plein. L'Argentine, par exemple, administre le vaccin russe Sputnik V à son personnel de santé en ce moment. Et le Chili a reçu une cargaison importante de vaccins chinois Sinovac. Et puis à noter, comme ailleurs dans le monde, certains pays accaparent les doses. C'est le cas du Chili, qui a précommandé le double des doses par rapport aux besoins de sa population.
Le vaccin russe appelé Sputnik V comme V. Vaccin. Lucille, l'ensemble de la région, donc on parle bien de l'Amérique latine, se repose finalement sur le mécanisme du COVAX. Le COVAX, ça a été mis en place par l'OMS pour garantir l'accès de tous au vaccin.
Oui, tous les pays latino-américains ont souscrit à ce système d'achat groupé, en quelque sorte, avec une participation financière qui s'adapte, qui dépend des revenus de chaque pays. Les plus pauvres dans la région, comme le Salvador ou la Bolivie, comptent d'ailleurs presque exclusivement sur ce mécanisme pour protéger leur population du coronavirus. Mais beaucoup de ces vaccins qui sont dans le portfolio du COVAX, ils ne sont pas encore prêts. Ils vont arriver plutôt dans la deuxième moitié de 2021. Les latino-américains vont donc devoir être patients, voire très patients, alors que les nouvelles contagions sont en hausse en ce moment dans la région, effet des fêtes de fin d'année, mais aussi des vacances d'été dans le cône sud. On a vu par exemple en Argentine ou au Chili des plages bondées et des stations balnéaires avec des agglomérations de personnes peu propices.
À noter aussi ce qui se passe à Cuba, situation très particulière.
Oui, c'est le seul pays de la région à développer son propre vaccin. Il s'appelle Soberana 2. Dos, souveraine 2, et il est en phase 2. Le gouvernement communiste veut vacciner la majeure partie de sa population cette année. Il a promis d'aider des pays pauvres. Il a même invité les touristes à venir se faire vacciner sur l'île. Un dernier point sur l'Amérique latine, les difficultés logistiques, c'est aussi un élément à avoir en tête, parce que maintenir à moins 80 degrés des doses n'est pas faisable partout. Ce sera d'ailleurs un problème pour toute la zone. Parvenir à déployer les vaccins dans des pays où il y a de larges zones difficiles d'accès avec peu de structures de santé. Je pense par exemple aux forêts tropicales d'Amazonie, aux zones désertiques ou encore aux zones montagneuses des Andes. Et puis il y a l'intervention d'acteurs mafieux déjà dans certains pays qui compliquent les choses. Au Mexique par exemple, les narcos se sont lancés dans le trafic de bouteilles d'oxygène et des escrocs vendent de faux vaccins.
Au Brésil, Lucia Muzel, la vaccination a commencé il y a 10 jours maintenant, et seulement j'allais dire. Le gouvernement a mis du temps à se décider quel vaccin acheter finalement.
C'est ça, en effet, le gouvernement brésilien a imposé tellement de conditions au laboratoire qu'à la fin, c'est-à-dire début janvier, il n'avait pas encore les doses pour commencer la campagne de vaccination. Il est important de noter, Philippe, que la politique s'est profondément mêlée à ces processus. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, méprisait le vaccin CoronaVac de la Chine seulement pour des raisons idéologiques, pour s'opposer au régime communiste. Mais à la fin, il a été obligé de céder car le gouvernement de l'État de São Paulo, dont le gouverneur sera probablement son opposant aux prochaines élections présidentielles, lui, il risquait de faire cavalier seul dans ce dossier. Ce serait un énorme échec politique pour Bolsonaro. La vaccination a donc commencé avec le CoronaVac chinois le 18 janvier, c'est-à-dire après plusieurs grands pays émergents comme la Turquie ou l'Indonésie. Quelques jours après, c'est la production nationale du vaccin d'AstraZeneca qui était finalement finalisée au Brésil et l'immunisation a pu s'accélérer là-bas. Donc à ces jours, 1 130 000 personnes ont déjà été vaccinées au Brésil, juste derrière la France.
Philippe. Oui, sachant que la population du Brésil, c'est 210 millions d'habitants. Il reste beaucoup à faire et le pays a donc besoin d'énormément de doses. Alors comment se situe la course au vaccin au Brésil ?
Pour l'instant, le gouvernement a signé ces trois contrats pour un total de 354 millions de doses en 2021. Il y a donc le chinois Sinovac, le britannique AstraZeneca et le consortium international COVAX de l'OMS dont Lucille parlait un instant, mais c'est pour le deuxième semestre. Les négociations avec Pfizer-BioNTech ont échoué pour le moment, mais sont toujours en cours. Le Brésil n'est pas d'accord avec certaines exigences juridiques du laboratoire américain concernant la flexibilité, notamment sur les délais de livraison. Et un autre point, source de conflit, est la volonté par Brasilia d'ouvrir la vaccination au secteur privé au Brésil. Ce qui voudrait dire que les listes de personnes prioritaires ne seraient pas respectées dans ces cas, il suffirait de pouvoir en acheter. Cela expose encore une fois la forte inégalité sociale au Brésil. Et à ce propos, nous avons interviewé l'avocat et médecin sanitaire Daniel Dourado. Il est à Paris pour des recherches en santé publique. Écoutons-le.
No caso do Brasil, numa situação de desigualdade imensa, que a gente sabe que é do país, isso seria naturalmente...
Alors, que vous a-t-il dit, Lucien?
Il n'est pas contre cette idée en soi, mais il estime que dans un pays aussi inégal comme le Brésil, ce serait immoral. L'accès à la santé ne devrait pas être une affaire d'argent. Et il rappelle que le Brésil n'a pas encore les doses nécessaires pour vacciner la première phase du premier groupe de personnes en tête de priorité, c'est-à-dire les plus de 75 ans, les habitants des EHPAD, les indigènes et les professionnels de santé. Donc pour le moment, le pays dispose de seulement 10% des doses nécessaires pour ces populations.
Oui, justement, il en est question au forum de Davos cette semaine de cette possibilité ou impossibilité de vacciner tout le monde. Les acteurs du privé partout dans le monde veulent pouvoir immuniser leur personnel avant toute chose, hein, c'est ça?
Voilà, oui, ils estiment qu'en achetant leur propre vaccin, ils peuvent contribuer finalement à l'effort d'immunisation collective des pays, ainsi qu'à soulager aussi les caisses des différents États. C'est vrai, bien sûr, mais à condition que ces achats ne s'interposent pas à ceux des gouvernements qui ont établi donc ces fameux groupes prioritaires pour les vaccins, car l'enjeu, on le sait, c'est d'assurer que la plupart de la population soit immunisée, et notamment les plus fragiles, qu'ils soient pauvres ou riches, au chômage ou embauchés. Et c'est pour ça que même les laboratoires s'opposent aux ventes au secteur privé pour le moment, en mettant en avant ce côté immoral d'une telle transaction, au moins à ce stade. Et dans une interview à notre rédaction, l'économiste brésilienne Monica Debol, installée à Washington, nous a rappelé l'importance de cette immunisation collective pour la reprise économique. Dans le cas brésilien, un échec de la campagne vaccinale pourrait conduire le pays à une crise encore plus grave que celle de 2020, selon elle. Je vous propose donc de l'écouter.
Não há como separar a economia da campanha de vacinação. Então, se o Brasil...
Quel est son point de vue?
Elle dit qu'on ne peut pas séparer justement l'économie de la vaccination. Donc si le Brésil veut vraiment redémarrer l'activité, il doit accélérer son plan national. Cependant, cela risque d'être compliqué car le budget de la santé publique cette année, en pleine pandémie, a souffert d'une coupe budgétaire de 5 milliards d'euros. Monica Debol est donc assez pessimiste pour les mois à venir, Philippe.
Voilà pour le continent sud-américain. Parlons maintenant des pays luso-africains, c'est-à-dire les pays d'Afrique où l'on parle le portugais. Karina Branco, est-ce que ces pays ont leur place dans cette compétition pour l'accès au vaccin ?
Non, Philippe, en effet, il n'y a pas de vaccin suffisant pour tout le monde, ni pour tous les pays. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et dans l'urgence, l'argent est roi. Nous le savons, la course pour commander des vaccins anti-Covid-19 avait débuté avant même d'avoir trouvé des vaccins. Mais dans cette course, les pays les plus pauvres sont les derniers du peloton, car la pandémie est elle aussi un miroir d'inégalité. Selon l'analyse récente de The Economist Intelligence Unit, la plupart des pays africains n'auront une immunité collective qu'à partir de 2023. Beaucoup de pays pourront même désister des vaccins avant. Si dans les économies africaines les plus avancées comme l'Afrique du Sud, la plupart de la population aura été vaccinée jusqu'au milieu de 2022, dans les pays les plus pauvres comme Guinée-Bissau, Mozambique, Saint-Thomas-et-Principe, Angola et Cap Vert, cette immunité collective ne devra être atteinte qu'en 2024.
Alors, qu'en pensent les spécialistes que la rédaction en portugais de RFI a pu contacter?
Le constat est unanime. C'est en gros le moment de la vérité en ce qui concerne la solidarité. C'est ce que nous a dit la haute commissaire de la Guinée-Bissau pour le combat contre la Covid-19, Magda Rubalo.
A solidariedade internacional, a hora da verdade vai soar. Vamos ver na prática se tudo aquilo.
Que dit Magda Rubalo en substance?
Magda Rubalo nous explique que concernant la solidarité internationale, l'heure de la vérité va sonner. On verra si tout ce qui est dit et tout le travail qui a été fait se concrétisera pour ne pas qu'il y ait une discrimination dans l'accès au vaccin. On verra si les plus puissants s'accaparent du stock existant parce qu'ils ont les conditions pour payer les meilleurs et les vaccins les plus chers, tandis que les pays les moins puissants économiquement restent derrière avec des populations démunies parce que la solidarité internationale n'a pas assez marché pour faire en sorte que les vaccins soient disponibles dans le sud. Donc elle réitère, ce sera le moment de la vérité.
Vous parliez de la Guinée-Bissau qui est donc un des pays les plus pauvres du monde. Ce pays compte vacciner 20% de sa population à partir du deuxième trimestre.
En tout cas, les premiers vaccins sont attendus jusqu'à la fin du premier trimestre. Le but est de vacciner 20% de sa population car la Guinée-Bissau intègre le projet COVAX de l'OMS ainsi que Saint-Thomas-et-Principe, Mozambique, Cabo Verde et Angola. Mais l'OMS a fait savoir aujourd'hui que jusqu'à la première moitié de cette année, elle distribuera des vaccins pour immuniser 3% des populations, les pays des plus pauvres. Rappelons que l'objectif global est de vacciner 20% de la population de chaque pays du programme, mais le manque de financement et les problèmes de production de vaccins et les accords bilatéraux entre les pays les plus riches et les laboratoires créent des doutes sur une distribution égalitaire des vaccins. L'Angola intègre aussi ce projet COVAX et la représentant de l'OMS en Angola, Jamila Cabral, nous a dit qu'il n'y a pas de vaccin suffisant pour tous les pays.
Agora, neste momento que estamos a falar, não há vacinas disponíveis para todos os países. Então é por isso mesmo que esse mecanismo...
Quelles sont les explications de cette dirigeante de l'Organisation Mondiale de la Santé?
Elle nous dit qu'il n'y a pas de vaccin disponible pour tous les pays. C'est pour ça que le COVAX est une garantie pour que les pays dans des situations plus compliquées puissent avoir aussi accès au vaccin. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde, donc il y a des gens prioritaires. Pour conclure, tandis que l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine sont dans une compétition mondiale pour vacciner ses populations en premier, les pays les plus pauvres sont une fois de plus les oubliés. Mais il faut se rappeler que le virus est en train de muter rapidement, que deux des mutations les plus inquiétantes viennent d'Afrique du Sud et du Brésil et que les gens voyagent et le virus n'a pas besoin de passeport.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 heures sauf Paris.
Paris, où le thermomètre se
rend. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et continuons de nous intéresser à la manière dont les pays du monde entier sont touchés par le Covid-19. Le nouveau variant du coronavirus est en train de couper les liens du Brésil avec le reste du monde. Plusieurs pays ont décidé en effet de fermer toute liaison avec le pays où la source appelée de Manaus fait peur à l'étranger. Lucia Mouzel de la rédaction donc brésilienne de RFI. À ce jour, combien de pays ont interdit les vols vers ou du Brésil?
La liste augmente tous les jours depuis la semaine dernière, mais au moins 8 pays ont interdit complètement les voyageurs brésiliens ou vers le Brésil. Sont-ils donc Portugal, Royaume-Uni, Italie, Pérou, Colombie, Turquie, Israël et Afrique du Sud. En plus, une centaine de pays ont imposé des fortes restrictions aux voyageurs du Brésil, comme les États-Unis ou plusieurs membres de l'Union européenne. Et en ce qui concerne la France, les passagers en provenance du Brésil doivent désormais présenter un test PCR négatif, faire une quarantaine de 7 jours dès leur arrivée et encore refaire les tests une semaine après.
Et puis, il y a ces Brésiliens qui vivent ailleurs dans le monde que dans leur pays. Situation très compliquée pour eux. Ceux qui étaient censés rentrer au Brésil n'y arrivent pas finalement.
Bah, tout à fait. Et c'est notamment le cas de ceux à bas revenus, Philippe, pour lesquels ce voyage presque impossible est devenu une source d'inquiétude majeure. Prenons l'exemple du Portugal, où vivent des milliers de Brésiliens. L'interdiction de tout vol vers le Brésil, annoncée mercredi, a pris effet ce vendredi, aujourd'hui, pour au moins 15 jours. Notre correspondante à Lisbonne a rencontré des Brésiliens vraiment désespérés car ils n'ont plus le moyen de prolonger leur séjour en Europe, comme ce couple Andrea et Vemerson qui étaient censés partir ce week-end au Brésil et avaient déjà tout quitté au Portugal, y compris leur logement, leur emploi. Écoutons Andrea.
Eu estou desempregada. A gente tá sem moradia.
Alors, elle raconte que sa situation est difficile. Hein.
Oui, elle dit être au chômage. Elle ne sait pas où ils pourront loger ces deux prochaines semaines, minimum. Hein. Ça peut se renouveler en plus. Leurs économies touchent à leur fin. Ils ne savent pas quand ils pourront rentrer au Brésil. Ils ne savent pas comment faire pour payer cette attente en Europe. Un autre Brésilien, Luis, nous a expliqué que oui, il est possible de trouver un vol, en effet, mais il faut faire tout un périple pour pouvoir contourner ces blocages au Brésil. Et ça fait monter les prix à un niveau insurmontable pour lui et sa famille. Ils devraient partir dans une semaine et là encore, ne savent pas comment ils feront pour payer ces dépenses supplémentaires et inattendues surtout, Philippe.
Alors, vous l'avez dit, les restrictions des voyages s'amplifient hein, partout dans le monde pour éviter ces nouveaux variants. C'est également le cas pour la Chine. Vous avez trouvé un Brésilien qui, au contraire, ne veut pas quitter le pays asiatique. Il estime être plus en sécurité en Chine qu'au Brésil ou qu'en Europe.
Bah oui, hein. On peut dire que José Renato Penelope a vraiment tout fait pour éviter le nouveau coronavirus pendant l'année dernière. Il habitait à Wuhan, la ville chinoise, depuis 9 ans quand le virus est apparu. Et dès les premiers signes d'inquiétude, il a quitté la Chine, d'abord pour la Biélorussie, pays de sa compagne, et ensuite le Cambodge, qui n'a presque pas été affecté par le virus. José Renato n'a pu retourner chez lui que 10 mois après, quand la Chine a rouvert ses frontières en octobre, mais avec de fortes restrictions. Ce qu'il a constaté à son retour, c'est que le peuple de Wuhan s'est vraiment investi dans ce qu'ils appellent là-bas une guerre populaire contre le virus. Il constate, par exemple, que le suivi des règles sanitaires est vraiment très strict, n'a rien à voir à ce qu'il voit en Occident. Et c'est pour cela, selon lui, que la Chine a réussi à maîtriser l'épidémie en quelques mois seulement, malgré sa population de presque 1 milliard et 4 millions d'habitants. Donc voici son témoignage.
Vocês têm, de certa forma, tomado aquela medida um por todos, todos por um. A gente quer garantir os direitos individuais ou os direitos coletivos e como ponderar, como equilibrar essas
coisas. Ah, il s'appelle José Renato et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ce qu'il voit, c'est que les Chinois ont assumé la devise un pour tous, tous pour un, et c'est pour ça, pour lui, peu importe si le système de traçage des cas de Covid, par exemple, menace leur liberté individuelle, tant que la sécurité sanitaire est assurée pour tous. José Renato note aussi que les populations des pays occidentaux et aussi celles du Brésil veulent garder leurs droits individuels, mais ne font pas assez pour combattre le virus, et du coup, cette situation pénible dure plus longtemps pour tout le monde par ici, Philippe.
Lucia Musel de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Faisons maintenant un focus sur le Portugal qui est devenu le pays le plus durement touché par le Covid-19 en proportion hein, de sa population. Karina Branco, la situation est très grave.
En effet, Philippe, l'épidémie de Covid-19 continue à battre de nouveaux records quotidiens de morts et de contaminations au Portugal ce mois-ci. Hier, par exemple, on a eu plus de 300 morts, aujourd'hui 278, et on compte presque 12 000 morts de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Il faut savoir que le Portugal a 10 millions d'habitants. Alors qu'on parlait du miracle portugais au printemps, tant le pays avait été épargné par la première vague, le Portugal est aujourd'hui le plus touché au monde, avec le plus grand nombre de nouvelles infections et le plus grand nombre de morts par million d'habitants.
Certains affirment que c'est le contre-coup du relâchement de Noël, même si le pays est en confinement depuis 2 semaines. Hein,
en effet, l'état d'urgence a été rallongé jusqu'au 14 février, les écoles sont fermées, le gouvernement a décidé d'interdire des déplacements non essentiels à l'étranger et il y aura à partir de dimanche dimanche le contrôle des frontières aériennes et terrestres, sachant que la quarantaine obligatoire pour ceux qui arrivent au pays est une hypothèse en train d'être étudiée. Les hôpitaux sont soumis à une pression gigantesque. On a même vu des ambulances qui attendaient aux portes des urgences avec des malades Covid-19. Le personnel de santé est épuisé et dénonce un manque de moyens et l'impossibilité de lutter contre d'autres maladies qui s'aggravent, comme a raconté le médecin urgentiste Ruth Alves à notre envoyé spécial au Portugal, Ligenge.
Não foi otimizada de forma a que se conseguisse responder às duas vagas, porque neste momento nós temos uma vaga de Covid grave e uma vaga de pessoas com patologias mais comuns.
Karina, que vous a dit Ruth Alves?
Ruth Alves nous dit que le système national de santé n'a pas été adapté pour bien répondre aux deux vagues, non seulement la vague de malades de Covid-19, mais aussi la vague de malades avec des pathologies plus communes qui arrivent dans des situations beaucoup plus graves à cause des retards dans la consultation ou la gestion de la maladie. Elle dit qu'il n'y a pas un plan pour ça et entre médecins, ils se disent qu'il faudrait mieux que cette personne ait le Covid, car ainsi ils pourraient garantir tout ce dont elle a besoin. Quand on a peu de moyens, ce qui est plus urgent et plus médiatique est ce qui est compté chaque jour. Et combien de lits restent pour les malades de Covid-19? Mais personne ne demande combien de lits il reste pour les malades non-Covid.
Et c'est dans ce contexte que le Portugal a voté dimanche dernier, l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Rebelo de Sousa, élu dès le premier tour avec 60% des voix, une abstention de 60% aussi. Hein. Tout le monde s'y attendait. Les attentions, finalement, les regards se tournaient plutôt vers l'extrême droite. Hein.
Oui, Philippe, les yeux étaient rivés vers l'extrême droite, jusqu'ici silencieuse dans l'échiquier politique. Dans un pays où la dictature a laissé de profondes cicatrices, André Ventura est arrivé troisième, talonnant la candidate socialiste et longtemps eurodéputée Ana Gomes, qui n'a pas eu le soutien de son parti, le PS, lequel a préféré majoritairement soutenir le président sortant du parti de centre-droite PSD. André Ventura, un sulfureux populiste appelé par Le Parisien comme le Trump portugais, a quand même réalisé un bon résultat qui marque une montée de l'extrême droite dans un pays où le populisme n'avait jusqu'ici pas pris.
Et le parti Chega devient ainsi la troisième force politique au Portugal. Hein.
Oui, André Ventura a eu le soutien explicite de Marine Le Pen et il a fait une campagne basée sur l'exclusion des minorités. Il a, par exemple, défendu un plan de confinement sanitaire spécial pour les communautés roms et a proposé qu'une députée née en Guinée-Bissau, laquelle voulait restituer des œuvres d'art aux anciennes colonies portugaises, qu'elle soit rendue à son pays d'origine. Le candidat de Chega a fait une campagne où il opposait les Portugais bien intentionnés contre les profiteurs en tout genre du système. La montée de l'extrême droite a donc sonné l'alarme et montré aussi une reconfiguration de la droite au Portugal. Le président réélu a promis de lutter contre la pandémie et l'extrémisme, mais l'historienne Raquel Varela nous a prévenu que ce ne sont pas les discours qui combattent l'ascension de l'extrême droite.
Não são os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa que vão combater a extrema-direita. Marcelo Rebelo de Sousa é parte do problema da ascensão da extrema-direita.
Quelle est son analyse politique à Raquel Varela?
Raquel Varela dit que ce ne sont pas les discours de Marcelo Rebelo de Sousa qui vont lutter contre l'extrême droite. Le président est partie intégrante du problème de l'ascension de l'extrême droite. Il est co-responsable des politiques qu'on a eues et qui ont provoqué cela. On combat l'extrême droite avec du travail digne, de bonnes conditions sociales et de bons services publics. Il faut qu'il y ait cohésion sociale. S'il y a des inégalités, des faillites, du chômage, s'il y a une sensation permanente d'insécurité chez les gens, il y a un secteur qui va adhérer au projet de l'extrême droite. Donc ce ne sont pas les mots, les câlins, les embrassades du président qui changeront quoi que ce soit, nous dit-elle. Ce pays doit faire des changements radicaux dont le principal est d'arrêter de sauver des banques pour aller sauver les gens.
Au final, malgré le risque de contamination dans les urnes, hein, qui explique en partie les 60% d'abstention, aller voter a été finalement un signe d'expression contre l'extrême droite.
Aussi, Philippe, malgré les craintes de risque de contamination dans les urnes, aller voter a été vu comme un geste de barrage contre l'extrême droite et surtout contre les inégalités mises à nu par la pandémie. Même si le nouveau coronavirus a montré la vulnérabilité de tous les pays, il est évident qu'il a attaqué les plus pauvres davantage, accentuant les inégalités. Ceux qui disent que le virus attaquait tout le monde de tous bords se sont trompés, car la pandémie est tout sauf démocratique, comme a raconté à notre envoyé spécial Ligia Anjos et au Prémio Scarpa, éducateur dans le quartier pauvre de Meixoeira, à Lisbonne.
O país está a andar à frente, mesmo nesse período de pandemia, era só graças a essas pessoas que vivem nesse bairro.
Le Prémio Scarpa est donc un éducateur de ce quartier de Lisbonne, quartier pauvre, hein, disiez-vous.
Exactement. Et il nous dit que si le pays a avancé même pendant la pandémie, c'est grâce à ces personnes qui vivent dans ces quartiers pauvres. Ce sont des gens obligés d'aller travailler, de prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et ce qui le rend triste, c'est qu'il y a une stigmatisation de ce quartier parce que les gens, à 6 heures du matin, ne vont pas remplir les transports. transport pour aller faire la fête. Ils vont travailler à 6 heures du matin. Au début de la pandémie, tout le monde disait que la pandémie était démocratique, qu'elle touchait pauvres ou riches, mais non, la pandémie n'est pas démocratique. Il dit qu'il a toujours voté, qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'ils puissent aller voter, et il y a des moments dans l'histoire où c'est vraiment nécessaire de le faire. En voilà un, parce qu'au Portugal, c'est très grave ce qui est en train de se passer au niveau des jeux politiques, nous dit-il. Ça a un peu dégénéré en référence à l'extrême droite. Donc, pour conclure, voilà le pays qui était, il y a quelques mois, un exemple dans la lutte contre la pandémie et qui aujourd'hui assure la présidence semestrielle du Conseil de l'Union européenne, dont un des principaux buts est de trouver des réponses pour cette crise sanitaire.
Voilà, la pandémie n'est pas démocratique, dit Sétouin. Ça fait réfléchir. Après Karina Branco de la rédaction en portugais, Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol, vous revenez sur une affaire qui a marqué le Chili. Alors c'est la mort il y a de cela 3 ans, enfin c'est en 2018, d'un jeune activiste du peuple autochtone Mapuche. Les responsables de sa mort, notamment un membre des forces spéciales chiliennes, ont finalement été condamnés cette semaine.
Oui, son nom est connu dans tout le Chili. Camilo Catrillanca avait 24 ans à l'époque des faits. Ce jeune activiste Mapuche, c'est l'ethnie indigène la plus répandue aussi au Chili, conduisait un tracteur quand il a été pris en chasse par les forces spéciales chiliennes dans une zone forestière du sud du pays. Il était accompagné à ce moment-là d'un autre Mapuche, d'un adolescent de 15 ans, lorsqu'il a reçu la balle dans la nuque qui l'a tué. Cette semaine, après 2 ans de procès, la justice chilienne a finalement condamné à 16 ans de prison le carabinier qui a tiré pour homicide et tentative d'homicide. Elle a aussi condamné 7 autres membres des forces spéciales et leur avocat pour leur complicité et puis aussi pour avoir tenté d'occulter des preuves et avoir fait obstruction à la justice. Les forces spéciales chiliennes, soutenues par le gouvernement, ont très longtemps dans cette affaire affirmé que Camilo Catrillanca, le jeune, était mort dans un affrontement avec la police. Et pourtant, des vidéos amateurs ont révélé par la presse ont démontré que c'était faux. Et puis la police a fini par reconnaître qu'elle avait même détruit les images prises par les caméras qui sont, vous savez, accrochées sur les uniformes des agents des forces spéciales. Cette décision de justice marque un avant et un après au Chili. C'est ce que nous a dit l'avocat et conseiller de l'Institut national des droits humains au Chili, Salvador Melillo.
Esto es un hito por dos cosas fundamentalmente. Primero porque el homicidio de Camilo Catrillanca fue el resultado.
Quels sont les dires de cet avocat?
Alors cette condamnation est un événement d'abord parce qu'elle met en lumière ce qui a été une politique d'État, nous dit-il, politique d'État de la part de tous les gouvernements chiliens depuis la fin de la dictature il y a 40 ans, de gauche ou de droite. Ces gouvernements ont adopté une posture de criminalisation du mouvement des indigènes Mapuche. C'est un peuple, ce peuple autochtone du sud du Chili considère que c'est terres ancestrales qui sont aujourd'hui exploitées par des compagnies forestières privées lui ont été usurpées et il mène régulièrement des actions pour les récupérer. C'est une région très boisée, très verte, l'Araucanie, et qui est donc le théâtre de conflits réguliers entre les forces de l'ordre et les Mapuches. C'est aussi la seule zone du Chili où est déployé le commando jungle, le commando jungle des forces spéciales. Un commando qui s'est formé en Colombie à la lutte antiterroriste. Les policiers incriminés dans l'affaire dont je vous parle, Catrillanca, faisaient partie de ce commando. Très très critiqué pour son mode d'action hyper violent. L'État chilien d'autre part traite les Mapuches comme des ennemis intérieurs et leur applique la loi antiterroriste qui date de la dictature de Pinochet et qui empêche des procès équitables.
Pourtant vous nous dites que les Mapuches c'est l'ethnie majoritaire, ce n'est pas le cas des gens qui sont au pouvoir ?
Pas majoritaire dans le pays, mais parmi tous les indigènes qu'il y a au Chili, ce sont ceux qui sont les plus nombreux.
Alors il faut savoir que de nombreux abus commis par la police chilienne restent généralement impunis, Lucille.
Oui, c'est le cas, par exemple, de la plupart des affaires de violence contre les Mapuches, et puis même plus largement des violations des droits de l'homme qu'a commis la police chilienne. Elle reste la plupart du temps impunie. C'est le cas de centaines d'affaires liées à la répression du soulèvement social qui est survenu l'an dernier au Chili. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a vu des milliers de vidéos, de témoignages, et puis plusieurs rapports d'organismes internationaux comme l'ONU ont jeté une lumière crue sur les pratiques de la police chilienne, une police militarisée qui est responsable jusqu'à aujourd'hui d'arrestations arbitraires, d'usage excessif de la force, de torture et même d'abus sexuels dans les commissariats.
Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol de RFI. Voilà pour Accent du Monde, avec un éclairage sur ce qu'il y a donc à écouter sur Radio France Internationale, à retrouver également sur les différents sites internet des rédactions du Monde de Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Polocorp and the Atlas Collective. Tilacine.
RFI.